On a commencé, il y a une couple de semaines, une étude sur le livre de Jacques. On est encore rendu au chapitre 1, le verset 4 et 5, ce qu'on devra voir ce soir. Jacques, c'est très riche comme enseignement pour nous, pour la pratique, pour les choses pratiques. Il y a, dans des épîtres, tu vois souvent, il y a des choses comme théoriques. C'est de l'enseignement du monde spirituel, puis des explications. Tandis que lui, Jacques, c'est, il enseigne, mais il enseigne des choses pratiques, des choses que faites ça, puis vous allez voir qu'il va y avoir ça. Puis c'est, on a vu justement la dernière étude, pour quelle raison, pour quel but que Dieu permettait qu'on ait des épreuves dans notre vie. L'épreuve de notre foi, ça produit de la patience, puis il fallait que notre patience accomplisse son œuvre. Mais on continue dans cette pensée-là, dans Jacques, au chapitre 1, le verset 4. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le répéter, puis je vais le répéter souvent. Dieu veut qu'on apprenne à marcher dans notre vie chrétienne, là, sans trébucher. Là, je parle pas de s'enfarger dans le tapis, là, ou trébucher en marchant sur le trottoir. Ça, physiquement, si on peut trébucher, ça nous fait mal, on sort là. Mais spirituellement, Dieu veut nous apprendre à ce qu'on trébuche pas spirituellement. Puis trébucher spirituellement, c'est pas rien des débarques dans notre foi. On avance dans la foi, on avance dans le service pour Dieu, on avance parce qu'on s'est donné au Seigneur, on s'est joint à ses rangs pour être à son service. On veut louer Dieu, on veut prier Dieu, on veut servir Dieu. Ça prend de la foi pour nous motiver, là. Ça prend de la foi pour aller de l'avant. Mais quand il arrive des épreuves, puis qu'un chrétien trébuche à cause de l'épreuve, je ne dis pas qu'il a abandonné complètement le Seigneur, mais il prend du recul. Il rétrograde. Il se relâche. Il se refroidit. Il traîne de la patte. Il va plus à ses réunions. Il sert plus Dieu. Il prie plus pendant une période. Mais ça, c'est trébucher spirituellement. Ça l'arrive. Je ne dis pas que ça l'arrive pas. Mais Dieu veut nous amener à ce qu'on soit une vie parfaite, accompli, sans faillir en rien. Ça, il veut nous amener dans une maturité pour qu'on soit comme Jésus. Amen. Dans Jacques 1, 4 et 5, ça nous dit, Dieu veut que notre persévérance dans le Seigneur, notre persévérance, notre endurance, la persévérance, là, c'est l'endurance, notre dureté. Physiquement, on peut être solide. Puis moralement ou spirituellement, on peut être faible. Quand à tous les petites affaires, on en fait un plat, puis on est prêt à tout lâcher. C'est pas de l'endurance, ça. Ça, c'est de la fragilité. Spirituellement, Dieu veut pas qu'on soit fragile. Il veut qu'on soit persévérant, endurant, avec une dureté dans notre âme, dans notre esprit, une fermeté au point qu'il n'y a rien qui nous fait peur, puis on est prêt à aller de l'avant, puis on va continuer, même s'il en reste, on se fera arracher un morceau, on continue. Des fois, ça, on va dire, il est dur, mais ça, il y en a des chrétiens qui vivent des temps durs présentement. Ils perdent tout leur bien, ils perdent leur famille, ils se font assassiner, ils se font persécuter, ils perdent tout. Est-ce qu'ils ont abandonné la foi? Je connais une église que j'ai reçu un email, là. Puis dans l'église, c'était quelqu'un que j'ai supporté pour l'aider dans son ministère. C'est au Pakistan. C'est un gars qui évangélise au bout. Il y a du monde, des baptêmes, là. Plein de monde se font baptiser. Il y a comme un réveil au Pakistan. Mais en même temps, il y a de la persécution. Puis dernièrement, là, après 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'église avec des bombes sur lui, dans son église. Puis là, il y avait un jeune homme de à peu près 22-23 ans qui était fier d'avoir une médaille, c'était sécurité dans l'église. Puis il était comme portier. Là, puis quand il a vu l'autre entrer avec une bombe, il s'est jeté sur le gars, puis l'autre il a fait exploser sa bombe, puis lui il est mort, le gars de 24 années. Mais il a donné sa vie pour sauver celle des autres dans son église. Puis ce monde-là, dans l'Église, là, mais il continuait à dire, on sert le Seigneur malgré les persécutions. Nous autres, on connaît pas ça, mais eux autres le vivent comme si c'était. Ils ont vu le frère mort, à moitié tout arraché, à terre, ensanglanté. Ils savent c'est quoi la persécution. Puis, malgré qu'il arrive des choses de même, ils persévèrent dans leur foi. Ils sont prêts à aller de l'avant. C'est pas qu'ils sont insensibles, c'est qu'ils se sont endurcis. Ils sont devenus persévérants. Il y a une endurance incroyable que malgré n'importe quoi qui peut arriver, ils continuent à se dire, on sert le Seigneur jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut arriver, frères et sœurs, entre nous. Il faut se fortifier en Seigneur au point de devenir comme ça, qu'il n'y ait pas rien qui nous ébranle, pas rien qui nous ralentit, pas rien qui nous refroidit, que malgré les tempêtes extérieures, parce que vous le savez que Jésus a dit que celui qui est sage bâtit sa maison sur le roc, qui est la parole de Dieu, puis ça c'est notre fondement, puis il dit la pluie va venir, les torrents vont venir, mais la maison va rester debout. Puis il a dit, ceux qui bâtissent sur le sable, c'est ceux qui ne veulent pas bâtir leur vie sur la parole de Dieu, bâtissent leur vie sur n'importe quoi de la vie. La pluie va venir, les torrents vont venir, puis la maison s'écroule. C'est notre vie, ça, la maison. Si on se bâtit sur la parole de Dieu, puis on s'ancre dans la parole de Dieu, notre maison va devenir inébranlable, puis la pluie va venir, puis le vent va venir. Jésus a dit qu'il y aura de la pluie et du vent sur nos maisons, qu'elle soit sur le roc ou sur le sable. Faut apprendre à bâtir sur le roc, qui est la parole de Dieu, être prêt à s'ancrer dans les versets de la parole, les promesses de Dieu. Coûte que coûte, peu importe ce qui arrive dans ma maison, dans ma famille, dans mes amis, dans mon travail, peu importe ce que j'ai des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, je reste ferme, je persévère. Ça, c'est des vents et des torrents qui viennent, toutes les mauvaises nouvelles. On lâche pas. Même si on apprendra qu'on a une maladie incurable, est-ce qu'on va abandonner? Non. Il faut persévérer dans la foi. Pourquoi qu'il faut persévérer dans la foi? Parce que notre foi, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Ça nous permet de saisir la promesse d'entrer dans la vie éternelle. Puis qu'on rentre dans un morceau, qu'on rentre en deux ou trois morceaux, mais il faut rester dans la foi pour être sûr d'entrer. Parce que si on perd des morceaux, puis on se dit, ah oh, ben là, je lâche tout, on abandonne, mais on a passé à côté du plan de Dieu. Dieu veut qu'on dans Jacques 1-4, mais il faut que votre patience, votre endurance, votre dureté, là, accomplissent parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Là, notre endurance doit se développer au point qu'on ait une vie sans faiblir, une vie parfaite, comme Jésus. C'est le but à atteindre. Des fois, on se dit, ouais, mais Jésus, c'est Jésus, puis moi, c'est moi. Non. Le but, c'est que nous aussi, qu'on soit comme Jésus. Faut pas s'amoindrir. Pourquoi? Parce qu'on l'a reçu, Jésus, en nous. Il est là, puis il peut nous rendre comme ça, si on s'en va dans la même direction qu'il veut nous emmener. Être accompli, là, c'est un corps sans défaut, sans tâche, que ce soit complet dans son ensemble, qui manque de rien, qui est entier, il est total, il est libre de péché, il est libre, il n'y a aucune faute dans sa vie. Quand il est accompli, c'est comme une plante qui a poussé et est pleine dans toute sa beauté, dans tout son éclat. Elle a atteint son objectif. Elle est rendue épanouie. Ben, Dieu veut nous amener comme ça. Puis la Bible appelle les chrétiens, en notre titre, que la Bible nous appelle, elle nous appelle des parfaits. C'est sûr que là, je regarde pas en pratique, je regarde en théorie. La Bible nous appelle des parfaits. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 2:6. Ça nous dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Pourquoi qu'on est appelé les parfaits? Parce qu'on était rendu parfait à cause que le sang de Jésus est sur nous. Puis là, la justice de Jésus est sur nous. Quand Dieu le Père nous regarde, Il nous voit qu'on est parfait parce que on est recouvert de la justice de Jésus. Mais qu'en est-il de notre mise en pratique de tous les jours? On l'a-t-il atteint d'être parfait? Je pense que si celui qui est parfait lève la main, j'espère que j'en ai pas vu une. Non, il n'y a personne qui lève la main. Mais faut savoir qu'est-ce que la Bible dit là-dessus sur la perfection. Dieu il a donné dans l'Église des ministères afin de nous amener à être parfaits. Oups! Dieu il pense qu'il est capable de nous amener à la perfection. Je parle pas de la perfection par le sang de Jésus, c'est déjà fait. Je parle de la perfection dans votre vie chrétienne. Faut que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Puis Dieu nous dit, dans la parole, qu'il a donné des ministères dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Puis grâce à l'enseignement qui est donné de la parole de Dieu, les explications, ça a le but de nous amener à être unis dans la foi, puis ça nous amener aussi à être parfaits. Ça, on voit ça dans Éphésiens 4, verset 12. Donc, Dieu est en train de fournir à ce que ça prend pour qu'on y arrive. Est-ce qu'on veut y arriver? C'est là qu'est la question. C'est là qu'est aussi le problème. Parce que souvent, on vise pas à devenir parfait. Qui vise à devenir parfait? Ben là, ça a l'air qu'il y a pas mal de monde qui vise à être parfait. Gloire à Dieu, c'est ça qui est le but. Si... Oui. En Éphésiens 4:12, ça nous dit qu'il a donné les ministères pour le perfectionnement des saints. Pour perfectionner les saints, il a donné les ministères. Perfectionner, c'est dans le sens de rendre parfait. Il veut perfectionner les saints pour que les saints en passant, c'est nous. On a été sanctifiés par le sang de Jésus. Les saints, c'est pas les saints catholiques apparemment qui ont béatifié dans le ciel. Non, les saints sont sur la terre présentement, puis c'est nous autres. On a été sanctifiés par le sang de Jésus, on est appelés les saints. Nous sommes les saints du royaume de Dieu. Un jour, on va hériter du royaume, puis on va être les saints, ceux qui habitent le royaume. Puis les saints, le mot saint veut dire sacré. On était consacrés à Dieu. En se donnant à Dieu, à travers Jésus, on est devenu consacrés à Dieu. Donc, on est des personnes sacrées. Le mot saint veut dire sacré. On est précieux aux yeux de Dieu. On est important. Nous sommes les êtres sacrés. On était des gens profanes avant, dans le péché, sans aucune valeur devant Dieu. Puis quand on s'est donné au Seigneur, puis on a reçu le pardon de nos péchés, on est devenus des saints, des consacrés, des sacrés. Puis ça nous dit qu'il a donné, il veut perfectionner ses saints, ses êtres sacrés qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Il veut les perfectionner. Il a donné dans l'Église des ministères, puis par l'enseignement que vous allez recevoir en étant attentif puis en demandant à Dieu de le faire, il va le faire. Puis il va, plus que votre vie chrétienne va avancer, plus que vous allez vous perfectionner. Si on est franc, puis si on a toujours été bouillant pour le Seigneur, c'est sûr que notre vie a eu une croissance depuis qu'on s'est converti jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements. Puis on continue à avancer pour devenir 100% comme Jésus. Je dis pas qu'on est rendu parfait, mais on vise à devenir parfait. Puis c'est ça que Jacques nous dit. Les épreuves de notre foi, ça va nous rendre comme ça. Mais on a besoin de laisser Dieu agir dans nous par la prédication de la parole, c'est un des moyens que Dieu donne pour nous perfectionner. Dieu sert de la prédication de la parole, puis là, il sert des épreuves pour nous rendre parfaits. Puis là, il dit que le perfectionnement des saints, on va devenir à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Faut arriver à la stature parfaite de Christ. On vise pas d'être un Christ imparfait, on vise à être un Christ parfait. Il faut viser à devenir parfait. Fait qu'il y a des choses de souilleux qu'on est conscient. Si on est conscient qu'on a des choses de souilleux, de péché, de faiblesse dans nos vies, c'est des choses que Dieu veut travailler pour enlever ça, puis nous mettre le caractère de Jésus en place, puis un caractère de sainteté, de pureté, puis de bonté, puis d'amour, puis toutes les caractéristiques de Jésus. Amen. Est-ce qu'on veut ça? Si on le veut, on va travailler avec le Seigneur, puis le Seigneur va le faire à travers de nous, puis il va servir des circonstances, des épreuves de notre foi, pour nous amener à cela. Pour arriver à regarder les épreuves comme un sujet de joie complète, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Fait que quand tu arrives dans une épreuve, est-ce qu'on est en joie et heureux de notre épreuve ou qu'on commence à se plaindre de notre épreuve? Mais là, plus souvent, je pense qu'on critique, puis on chiale, puis on se plaint. Mais il nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez passer, sachant que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance, de la persévérance, de la dureté, de la fermeté. On se renforcit avec nos épreuves si on les prend sur le bon bord. Mais pour arriver à voir nos épreuves sur le bon bord, savez-vous qu'est-ce que ça prend? Selon Jacques, c'est en cours d'une manière bien pratique. C'est justement l'autre verset de suite après, dans Jacques, chapitre 1, le verset 5. Il faut demander de la sagesse à Dieu. Parce que c'est pas automatique qu'on voit les épreuves d'une manière positive. Ça prend la sagesse de Dieu pour voir les choses d'une manière positive. Puis là, Jacques, dans ce verset-là, il dit dans Jacques 1:5, « Si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, puis elle lui sera donnée. » Fait qu'il dit, « Regarde comme un sujet de joie toutes les épreuves, mais si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu, la sagesse. » On a besoin de la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Oui, c'est vrai. Tu sais, on en a parlé au début. C'est le frère de Jude aussi qui a écrit l'épître de Jude. Puis lui, dans sa manière de voir ça, regarde comme tes épreuves d'une manière positive, puis si t'es pas capable, demande la sagesse de Dieu. Demande à Dieu qu'il te remplisse de sa sagesse, parce que par défaut, en partant, c'est pas la sagesse de Dieu qu'on a, c'est la sagesse du monde. La sagesse humaine, normale, que des grands philosophes se pensent tous sages selon la chair, mais ils connaissent pas Dieu. Puis la sagesse des hommes, c'est une folie devant Dieu. Ils peuvent pas comprendre les choses de Dieu avec la manière de Dieu si on n'a pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle se reçoit comment? Comment est-ce qu'on reçoit la sagesse de Dieu? Juste la demander. C'est ce qu'ils viennent de dire dans le passage. Si quelqu'un manque de sagesse, demandez-la à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle leur sera accordée. Dieu, il voulait déjà nous la donner, la sagesse, d'en haut. Puis il la demande, c'est aussi simple que ça. Demande-la, puis il va te la donner. Puis là, ta pensée va commencer à changer. Parce que là, quand tu vas voir la sagesse de Dieu, tu vas commencer à penser comme Dieu pense. Puis quand tu vas voir ton épreuve dans ta vie, tu vas voir l'épreuve avec les yeux de Dieu, non pas avec tes yeux humains. Puis là, tu vas voir que c'est une bénédiction, ton épreuve. Pourquoi? Parce que là, tu vois les choses avec le point de vue de Dieu. Puis là, tu viens de t'apercevoir que cette épreuve-là est mise là par Dieu dans le but, justement, que tu te renforcis. Puis si tu t'en aperçois, mais tu vas être capable de passer à travers cette épreuve-là avec joie. Parce qu'il dit « regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ». Fait que tu vas passer à travers ton épreuve avec joie. Combien est-ce qu'il y en a qui sont capables de passer les épreuves avec joie? Si on n'est pas capable aujourd'hui, on demande la sagesse de Dieu, ça ne sera pas long, qu'on va tout rire quand on va être dans les épreuves.
C'est pas facile de rire dans les épreuves.
C'est pas facile, mais si tu écris, si c'est écrit, Ça veut dire que ça peut, on peut y arriver. Je dis pas qu'on pleurera jamais. On va pleurer aussi. Ça fait mal. Quand ça fait mal, ça fait mal. Mais tu comprends qu'il y a de quoi qui t'encourage parce que tu sais que c'est pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que c'est qui ça, les ceux qui sont appelés selon son dessein? C'est nous. On aime Dieu, on est appelé selon son dessein de passer par Jésus-Christ pour être sauvé. C'est nous. Puis là, ça dit toute chose concourt à votre bien. Fait
que... Au début, on est triste, mais quand on commence à penser au qu'est-ce que t'écris dans la parole, puis on commence à réaliser qu'est-ce que t'écris, ben là, on peut changer.
C'est ça. C'est exactement ça.
C'est heureux qu'on vienne à lui comme un petit enfant.
Puis qu'on accepte les choses. Il nous dit une affaire. C'est sûr que c'est, on pense pas de même au début. Au début, on pense pas de même. On pense humain avec la sagesse humaine. Pas encore qu'il fait frette. Puis pourquoi qu'il fait frette? Puis il fait toujours frette. Ben, il est long cet hiver-là. Ça, des sujets de se plaindre, on va en avoir à tous les jours. Mais commencer à rendre grâce à Dieu pour les, pour ce, parce qu'il fait frette.
Pourquoi l'eau gèle?
Puis pourquoi que l'eau gèle? Pourquoi que l'eau a gelé pis qu'on n'a plus d'eau pour nos toilettes, etc.? Puis là, commencer à voir ça avec la sagesse de Dieu, on va commencer à penser différemment, puis on va peut-être voir des raisons bénéfiques. Peut-être qu'on n'aura même pas de raison, mais au moins on va passer à travers l'épreuve d'une manière parfaite sans broncher, parce que quand on critique, on est en train de broncher. On est en train, on rend pas grâce à Dieu, on n'honore pas Dieu. Ouais, les murmures, les critiques, les plaintes, chialer. Puis les Québécois, on est fort là-dessus. Comme j'ai dit, je l'ai pas dit, mais là, je vous le dis, il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse du monde, puis il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas dans le monde. La sagesse de Dieu n'est pas dans le monde. La sagesse de Dieu vient de Dieu. Tu peux la demander, mais tu ne l'avais pas automatiquement. Puis c'est ce qu'il faut aller chercher. Puis dans 1 Corinthiens 1, au chapitre 20, ça n'en parle de la sagesse du monde puis la sagesse de Dieu. À partir du verset 20 jusqu'à 24, ça dit, Dieu il a convaincu de folie la sagesse des hommes. Dieu trouve ça fou parce que l'homme, dans sa sagesse humaine, n'a pas trouvé Dieu. Il peut pas le trouver. C'est tandis qu'il y a des gens qui n'avaient pas de sagesse humaine, mais ils avaient la foi en Dieu, ils ont connu Dieu à travers de Jésus, puis ils ont reçu la sagesse d'en haut. Fait que tu peux être un ignorant des choses du monde, puis un connaissant aux yeux de Dieu, un sage aux yeux de Dieu. Mais il faut aller demander, même si tu es un ignorant des choses du monde, c'est pas grave. Mais si tu es connaissant au niveau de Dieu, puis que tu reçois sa sagesse, ta vie va être différente, tu vas être béni dans ta vie, tu vas être heureux dans ce que tu vis, puis tu sais aussi qu'est-ce que tu t'en vas. Un jour, on va rentrer dans la vie éternelle. Puis, Jacques a expliqué aussi la différence entre la sagesse humaine puis la celle qui vient de Dieu. Il l'explique dans Jacques 3, le verset 13, mais on le verra, ou on peut le regarder, ça va être le dernier verset ce soir. Un petit peu plus loin dans son épître, il dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, là, c'est de la chicane. Ne vous glorifiez pas, puis ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais est terrestre, charnelle et diabolique. Parce que là où il y a un zèle amer, puis un esprit de dispute, il y a du désordre, puis toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse d'en haut, elle est premièrement impure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, est exemple de duplicité et d'hypocrisie. Voyez-vous, il y a toute une différence entre la sagesse charnelle et la sagesse de Dieu. La sagesse charnelle, ce n'est que de la chicane, zèle amer, esprit de dispute, analyser, juger, critiquer, chialer, se plaindre, détruire. Puis où est-ce qu'elle est, cette sagesse-là? Il y a un zèle amer, puis un esprit de dispute. Il y a beaucoup de désordre, puis de mauvaises actions. Fait qu'il y a des gens qui se pensent sages, puis tout ce qu'ils font avec leur bouche, ce n'est que de faire du trouble. Tandis qu'il dit, tu manques de sagesse, demande-la à Dieu, il va te la donner. Puis quand tu es rempli de la sagesse de Dieu, ça va t'amener à être pur, pacifique. Pacifique, là, c'est de rechercher la paix. Être une personne qui recherche à être en paix avec tout le monde. Modéré. Modéré, c'est le contraire de quelqu'un qui veut profiter de tous les plaisirs de ce monde. C'est d'avoir de la retenue, d'avoir de la maîtrise de soi. Conciliant, c'est de laisser gagner les autres quand tu es dans une conversation. Tu vas laisser gagner l'autre. Tu chercheras pas à avoir le dernier mot. Tu sais, quand on est un petit peu orgueilleux, avec là, on s'ostine, puis on cherche à avoir le dernier mot. Plein de miséricorde, ça, c'est d'avoir pitié des autres, puis d'avoir de la compassion, à vouloir l'intérêt des autres, puis du bon fruit. Exempt de duplicité et d'hypocrisie. Ça, j'en ai déjà parlé dans une prêche. C'est ceux qui sont dupes et hypocrites, c'est des acteurs. Ils font semblant. C'est pas des vrais. Ils font semblant d'être chrétiens. Ils ont pas l'intérieur du chrétien, mais ils ont des masques. C'est des gens qui jouent un rôle, qui font une pièce de théâtre. C'est des acteurs. Être un hypocrite ou un acteur, c'est des gens, ils appellent ça dupes ou hypocrites. C'est des gens qui jouent, qui font semblant d'être chrétiens. Ils ont un masque, ils jouent un jeu. Puis, Dieu nous appelle à être vrai. Puis si on veut vraiment être capable de voir les épreuves de la bonne façon, puis de pouvoir arriver à devenir parfait, mais ça prend la sagesse de Dieu. Puis on est encouragé à le demander à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Dieu ne fera pas de reproche de le demander. Ça va lui faire plaisir de nous la donner. Fait que si vous cherchez un sujet de prière, mais demandez, incluez ce sujet-là. J'ai besoin de la sagesse, puis dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse qui vient d'en haut, puis votre vie va commencer à changer. Puis vous allez voir la vie différemment. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est là pour nous encourager à te demander de la sagesse. Je sais que humainement parlant, on marche souvent sur la sagesse charnelle, puis ça crée beaucoup de désordre puis de problèmes. Je te demande de nous remplir de ta sagesse qui vient d'en haut, ta sagesse qui est pure, qui est pacifique, qui est modérée, qui est conciliante, qui est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donne-nous, Seigneur, d'être des vrais, puis qu'on soit alimenté avec ta sagesse pour être capable de voir la vie avec tes yeux à toi, puis être capable de réagir avec ce qui est en Jésus, qu'on devienne à être comme Jésus, parfait comme Jésus. Puis merci de ce que tu veux faire dans nos vies pour nous changer complètement. On remet nos ventres entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.